À tort ou à raison, n'est-ce pas? On passe obligatoirement par des moments de colère.
Tout le monde le sait, tout le monde en parle! Alors arrête de me faire rire, hein! Parce que j'en ai marre!
Silence!
Papa!
Tais-toi!
Donne-moi l'échelle! Donnez-moi, je suis calmé là! Donnez-moi l'échelle!
Catharsis.
Come and get your fucking shine box.
Motherfucking mutt, you fucking piece of shit!
L'émission qui part à la rencontre de ceux qui, un jour, ont pété les plombs.
Allez, de petit enculé! De merde! Qui s'y attendra toute la journée?
Ramène-le.
Vous venez d'entrer dans l'émission où vous avez le droit d'être énervé. Pour cette première séance de catharsis, commençons en douceur. Aujourd'hui, le craquage, oui. Le pétage de plomb, oui, mais sur le long terme. Dans ce premier épisode, on se penche sur l'épuisement professionnel, celui qui finit par te faire perdre ton sang-froid.
Donc je m'appelle Evelyne, j'ai travaillé pour une société suédoise, grand groupe international. J'ai travaillé pour eux 18 ans. J'ai commencé ma mission en 2000. J'ai évolué en travaillant 12, 13, 14, 15, 16, 17... 17 heures par jour, je partais toutes les semaines en déplacement, j'étais jamais chez moi. Étant une femme qui élève seule son enfant, ça pose déjà un problème. J'ai commencé comme simple employée, j'étais là comme consultante. Après, j'étais embauchée comme adjointe dans un service fiscal. Après, j'étais adjointe chef comptable. Et un beau jour, j'ai eu un super chef qui est arrivé. Lui, il m'a donné ma chance. J'ai travaillé comme une enragée, mais vraiment comme une enragée. J'étais jamais chez moi. J'ai fait le tour de France en un an avec ma collègue. On avait tous les deux le même poste parce qu'on devait rassembler toutes les comptas des filiales, en faire qu'une. La suite, c'était de savoir ce qu'on allait devenir une fois que toutes les comptas allaient être regroupées. Et en fait, on savait qu'il allait en rester qu'une. On nous a payé un super stage en management. J'étais un coach, on y allait toutes les semaines. Et en fait, j'ai vu sur un tableau qui n'avait pas été caché que tout était déjà décidé d'avance depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'elle était déjà ma responsable avant même d'avoir commencé, avant d'avoir fait ses preuves. Et moi, je passais sous ses ordres, mais avec aucun avantage, alors que cette femme venait d'arriver dans le groupe. Mais on m'a quand même consolé en me disant « T'inquiète, Evelyne, on t'aime, c'est avec toi que j'irai boire une bière. » Aller boire une bière avec son chef, c'est ce qu'on attend d'un travail.
Merci patron.
Donc j'ai commencé à être très mal et on me donnait de plus en plus de travail et je devais rendre de plus en plus de comptes à mon ex-collègue. Je me sentais vraiment trahi. Ça s'est traduit d'abord par des douleurs physiques, maux de tête, maux de ventre, douleurs lombaires, crise de larmes. J'avais perdu 7 kilos, ouais, 7 kilos quand même. Pour moi, la vie était de plus en plus difficile. On me retoquait sur des petits détails, sur des points. C'était des petites attaques. C'était pas fait. J'ai aucune preuve personnellement comme quoi on essayait de me nuire parce que c'était petit. C'était ils se protégeaient en même temps. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'était latent. C'était là toujours. Et ce qui a déclenché, c'est mon entretien annuel avec ma pseudo-chef, quoi. J'avais réussi mes objectifs, tous mes objectifs. Et normalement, cet entretien annuel était basé exclusivement sur les objectifs. Et elle m'a retoqué tout de suite en me disant « C'est bien, tu as eu tes objectifs, mais par contre, au niveau management, rien ne va pas. Déjà, vis-à-vis de moi, tu ne me respectes pas, etc. etc. » Moi, j'adorais rigoler, j'adorais mon équipe, c'était mes amis, et le boulot se faisait bien. Mais non, on n'a pas le droit. Et donc, au lieu d'avoir les... Je ne sais plus, c'était une petite augmentation à la con. Hein, ça devait être 1,2%, un truc comme ça. Et ben toi, tu auras 0,6. Mais c'était symbolique, quoi, parce que 0,6 ou 1%, c'est pas ça qui allait changer le cours de ma vie. On n'avait pas le droit de le faire, ça, de toute façon, puisqu'il fallait vraiment... Mes objectifs étaient atteints. Donc ça m'a fait péter un câble, et là, j'ai perdu mon contrôle, et je suis devenue quand même assez violente. C'est-à-dire que j'ai eu une montée d'adrénaline qui m'a fait perdre pied, et j'ai pris un malaise, et les pompiers sont venus, et m'ont emmené directement à l'hôpital, et donc m'ont placé 3 mois. J'ai passé quand même 2 jours à HP enfermé, quand même. Ça fait... Drôle de se réveiller dans un hôpital psychiatrique quand même le matin. Tu te réveilles, t'as ton lit attaché, ta chaise attachée, t'as pas le droit aux écouteurs, de peur que tu t'étrangles. T'es dans un monde avec des gens qui sont quand même vraiment pas bien. Tu te dis mais pourquoi je suis là quoi? Pourquoi? Parce que j'ai travaillé. Parce que j'ai voulu faire correctement mon travail, parce que je m'en suis jamais fichu. me pète un câble très très facilement. Et je ne suis pas la seule à avoir pété un câble. J'ai vu beaucoup de souffrance quand même de gens et beaucoup de silence puisque les gens ne parlent pas de cette maladie. Puisque déjà, on a quand même un problème à ce niveau-là, c'est que le gouvernement ne l'a toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. En fait, en plus, comme c'est une maladie quand même qui est psychologique, on ne parle pas. Dire « je ne suis pas bien au travail, j'ai des angoisses » et je... ça ne se dit pas. Ça se dit pas. Il ne faut pas le dire, quoi. C'est malvenu de dire à quelqu'un qu'on se sent mal dans le monde du travail. Surtout quand on a un bon poste à responsabilité. On te dit facilement « mais t'es folle, toi. Mais pourquoi tu vas arrêter un boulot comme ça? T'as vu, tu gagnes bien ta vie, etc. » Mais personne ne fait attention à la qualité de vie au travail. C'est pas un truc violent où on arrive, qu'on te dit « bah t'es une imbécile, t'y arrives plus, t'es trop vieille, on te jette, on te met ailleurs parce que voilà, t'as plus de niveau. » Non, on dit pas ça. On te grignote. On grignote petit à petit et personne n'est là pour le voir. Donc quand tu vas te plaindre, on te dit « mais on t'a rien fait ». Et tout ça sous l'œil bienveillant des RH qui te diront « non, ça n'existe pas ». Mais non, tu te fais des idées. J'ai vu aussi d'autres cas, mon boulot, des gens qui étaient harcelés par des chefs à l'étranger, qui leur donnaient du travail juste avant qu'ils partent en vacances, sachant qu'ils n'allaient pas y arriver. Eh bien, qui donnait des gros boulots deux jours avant, en disant « vas-y, si tu veux mériter tes vacances ». Et je voyais des gens qui craquaient, qui avaient peur, et qui, j'en connais plein, qui sont partis en HP à cause dans ma société. Mais apparemment, pour eux, ça n'existe pas. Donc, ça n'a jamais été de leur faute non plus. Ça a été toujours de ma faute, de la faute de ma famille, parce que j'avais d'autres problèmes, comme tout le monde, quoi, mais qui étaient quand même liés par rapport à ma surcharge de travail, puisque j'étais jamais chez moi, donc je ne pouvais pas tout mener à bien.
L'argument qu'on a opposé à Evelyne, que c'était sa situation familiale qui était à l'origine de son épuisement, est un des arguments utilisés par ceux qui refusent que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle. Le fait qu'on ne puisse pas isoler les sources du burn-out en fait une pathologie multifactorielle. Le 1er février 2018, François Ruffin, député La France Insoumise, revenait justement sur cet argument à l'Assemblée nationale.
Ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que rien, aucune inscription dans le tableau des maladies professionnelles ne s'est faite avec du consensus, ne s'est faite à l'unanimité. La silicose, l'entrée de la silicose dans le tableau, ça a été l'objet d'une lutte. Et ça a été d'abord un refus du patronat et avec des porte-voix de ce patronat aussi dans cet hémicycle. Sur l'amiante, le patronat a freiné des cas de fer pendant des décennies et avec des appuis aussi dans les gouvernements et dans cette assemblée. Sur le plomb, il en a été de même. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on est venu dire? On est venu dire, oui, mais c'est multifactoriel, quelle est l'hygiène des salariés? Ils ne réagissent pas tous de la même manière. Donc de toute façon, cet argument de c'est multifactoriel, on l'entend en permanence.
Ma direction avait mis en place ces ateliers pour prévenir des RPS, c'est-à-dire qu'ils le font, mais en rigolant. Au cours de la réunion, je les voyais sourire. C'est-à-dire que pour eux, c'était un sujet rigolo, quoi. C'était un sujet, voilà, on passait deux heures à discuter des pauvres gens qui souffraient au travail, mais sans les comprendre. Mais pourquoi ils souffrent? Et quand on leur dit si ça existe, ils disent oh, arrête d'exagérer. Et même la médecine du travail, quand elle l'expliquait, même je les voyais qui faisaient des grimaces, en fait, en me disant on parle, mais pour rien, quoi. Après, on va avoir des beaux slides qui vont plier, ils vont mettre dans leur dossier. S'il y a un contrôle, on va dire, ben voilà, nous on a tout fait pour... Mais ça sert à rien, ça. Il faut expliquer aux gens, il faut parler. Parce que moi, le fait qu'elle devienne ma chef, à la limite, pourquoi pas, puisqu'on était deux. Il faut leur dire pourquoi on a pris telle décision. C'est-à-dire, pourquoi au bout de 18 ans de récompense, on te dit, c'est bien, t'as bien fait ton boulot, heureusement que t'étais là, t'as tout redressé. Pourquoi tu passes en dessous? On a un peu de colère, non?
Comme un défouloir, j'ai vu tes pensées, y'a tout qui est tout noir. Toujours raté, voilà ce que donne vouloir. Je veux juste pouvoir, je veux pas le pouvoir. Y'a pas l'ombre d'un doute qu'on se fait entuber. Je suis Guadeloupe 1, je suis LKP. Je suis contenu, je suis tétrapacté. Envie de lâcher le frein, envie de déraper. Y'a 2-3 heures, tu pouvais me raisonner. Mais t'étais là, tu me riais au nez. Maintenant c'est plus moi, c'est la colère qui te parle. Elle est au bout de la ligne, je lui ai dit quitte pas. Toi tu me disais, on t'a pas sonné. Pas maintenant, c'est la colère qui frappe. Toi tu me disais, faut pas exagérer. Pas maintenant, c'est la colère qui gagne. J'en colère.
au cours de mon internement, parce que j'étais internée, j'ai rencontré des gens vraiment très malheureux. J'ai rencontré même une mère de famille qui s'était fait harceler par sa chef. Donc, cette femme avait deux petits-enfants. Et un jour, elle est rentrée chez elle. Elle a passé sa nuit normale, le lendemain, elle s'est levée. Elle a emmené ses enfants à l'école. Et elle a ouvert le gaz quand elle est rentrée chez elle pour se suicider. On a des idées de mort quand on est comme ça. C'est-à-dire qu'on fout une vie en l'air. Quoi. Je sais pas, moi, l'autre fois, j'ai encore regardé une émission sur le burn-out où un monsieur s'est suicidé, quoi. Alors qu'il était... toute sa vie, c'était que son boulot qui l'avait mené. Il s'est suicidé. Il a laissé sa famille derrière. Moi, je suis dans un groupe de burn-out. Mais je vois une misère. Mais vraiment, c'est de la misère, quoi. Vraiment une misère, mais sociale, morale, qui est impensable à l'heure actuelle, quoi. Moi, quand j'allais voir mon médecin généraliste, il m'avait dit, à cette époque, je suis étonné de voir de plus en plus de gens qui souffrent à cause de leur boulot, même des gens dans le bâtiment. Qui casse des cailloux sur les routes.
Je ne veux pas provoquer M. Castaner, mais il avait eu à ma place, M. le Premier ministre Édouard Philippe et M. Castaner avaient eu à ma place ce propos, comme quoi il ne faut pas critiquer les entreprises qui réussissent. Eh bien, je suis désolé si c'est ça la position de la majorité. Il faut au contraire critiquer les entreprises qui réussissent quand elles mettent à mal la santé de leurs salariés. Je vous remercie.
Bon, au début, je suis arrivée à la clinique, j'étais complètement paumée, hein, j'étais dans le trou, parce que rien que le fait de voir un panneau de ma société, mais ça me rendait malade. Je me suis retapée. Quand je suis ressortie de la clinique, le seul souci, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me refaire à la vie courante, c'est-à-dire à la vie en dehors. J'avais l'impression que vraiment, ils étaient tous fous, les gens, en fait. C'était moi, en fait, qui avait tout juste nommé. On a une manière de voir les choses, je ne pouvais plus me réhabituer à la vie. C'est-à-dire que quand je suis sorti de la clinique, le premier jour, je suis monté dans le bus, je me suis dit, mais c'est pas possible, jamais plus, je pourrais revivre dans ce monde, quoi. J'avais qu'une idée, c'était de retourner à la clinique. J'aurais fait n'importe quoi pour me refaire réinterner en clinique. En clinique, je me sentais protégée.
Après ces 3 mois en clinique, Evelyne est retournée travailler dans son entreprise. Elle a accepté le nouveau job qu'il lui proposait. Assez rapidement, il s'est avéré qu'elle ne supportait plus l'environnement de travail et la pression qu'elle ressentait. De son propre aveu, elle ne saurait même plus dire si son nouveau chef lui mettait effectivement une pression intenable ou si elle était simplement devenue trop sensible à un environnement de travail stressant. Elle est retournée de son plein gré en clinique pour une semaine. Elle y est finalement restée un mois, ce qui l'a remise d'aplomb, mais sans pouvoir effacer toutes les conséquences de son épuisement professionnel, conséquences qui persistent encore aujourd'hui.
Avant, je travaillais, je prenais un dossier, tac tac, j'étais sûre de moi, j'y allais tranquille, je le faisais. Après, mais je réfléchissais je me relisais 15 fois, quoi. Avant d'envoyer même une note. Je faisais attention au point virgule, à la virgule. Je ne peux plus manager, je ne veux plus de travail à responsabilité. Donc c'est quand même assez gênant aujourd'hui, puisque je suis au chômage, et demain, ben, je vais accepter n'importe quel petit job à partir du moment où j'ai plus affaire à ce management un peu tordu, on peut dire. Moi aujourd'hui, si je dois retravailler, je choisirais une PME, toute petite PME, un petit commerce, quelque chose où on est 3-4. Quelque chose où les gens se sentent utiles. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai retrouvé. Je retrouve petit à petit confiance en moi. Je ne l'ai pas encore complètement retrouvé. Mais je reprends du poil de la bête. Et puis, c'est un petit peu derrière moi. Mais ça continue à m'obséder un petit peu le soir avant de dormir. Il ne faut pas que j'y pense. Je m'empêche d'y penser. Et je peux toujours pas voir mes anciens collègues de travail. Enfin, quand j'en rencontre un sur le marché par hasard, je fais un détour. Alors qu'ils m'ont rien fait, les pauvres.
Ton journal, tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Catharsis. J'espère que ce témoignage vous a fait soit décompresser, soit donner envie de taper dans les murs. On se retrouve le mois prochain pour un deuxième épisode. Et si vous connaissez des gens qui ont pété des plombs pour X ou Y raison, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante catharsis@radiocampusparis.org. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus.